Pour croire à la pieuvre, il faut l'avoir vue. Comparée à la pieuvre, les vieilles hydres font sourire. Ce monstre est celui que les marins appellent « poulpe », que la science appelle « céphalopode » et que la légende appelle « kraken ». Les matelots anglais l'appelaient « devilfish », le poisson diable. Ils l'appellent aussi « bloodsucker », suceur de sang. Dans les îles de la Manche, on le nomme la pieuvre. Il est très rare à Guernesey, très petit à Jersey, très gros et assez fréquent à Cerques. Une estampe de l'édition de Buffon par Sonnini représente un céphalopode étreignant une frégate. Denis Montfort pense qu'en effet, le poulpe des hautes latitudes est de force à couler un navire. Boris Saint-Vincent le nie, mais constate que dans nos régions, il attaque l'homme. Allez à Cerques, on vous montrera près de Brecqhou le creux du rocher où une pieuvre, il y a quelques années, a saisi, retenu et noyé un pêcheur de homard. Perron et Lamarck se trompent quand ils doutent que le poulpe, n'ayant pas de nageoire, puisse nager. Celui qui écrit ces lignes a vu de ses yeux à Cerques, dans la cave dite « les boutiques », une pieuvre poursuivre à la nage un baigneur. Tuée, on la mesura, elle avait 4 pieds anglais d'envergure et l'on put compter les 400 suçoirs. Selon Denis Montfort, un de ces observateurs que l'intuition à haute dose fait descendre ou monter jusqu'au magisme, le poulpe a presque des passions d'homme. Le poulpe est. En effet, dans l'absolu, être hideux, c'est haïr. Le difforme se débat sous une nécessité d'élimination qui le rend hostile. La pieuvre nageant reste, pour ainsi dire, dans le fourreau. Elle nage tout plissérée. Qu'on se représente une manche cousue avec un point dedans. Ce point, qui est la tête, pousse le liquide et avance d'un vague mouvement ondulatoire. Ses deux yeux, quoique gros, sont peu distincts étant de la couleur de l'eau. La pieuvre en chasse ou au guet se dérobe. Elle se rapetisse, elle se condense, elle se réduit à la plus simple expression. Elle se confond avec la pénombre. Elle a l'air d'un pli de la vague. Elle ressemble à tout, excepté à quelque chose de vivant. La pieuvre, c'est l'hypocrite. On n'y fait pas attention, brusquement, elle s'ouvre. Une viscosité qui a une volonté. Quoi de plus effroyable? De la glu pétrie de haine. C'est dans le plus bel azur de l'eau limpide que surgit cette hideuse étoile vorace de la mer. Elle n'a pas d'approche, ce qui est terrible. Presque toujours, quand on la voit, on est pris. La nuit, pourtant, et particulièrement dans la saison du rut, elle est phosphorescente. Cette épouvante a ses amours. Elle attend l'hymen. Elle se fait belle, elle s'allume, elle s'illumine. Et du haut de quelques rochers, on peut l'apercevoir au-dessus de soi dans les profondes ténèbres épanouies en une irradiation blême, soleil spectre. La pieuvre nage, elle marche aussi. Elle est un peu poisson, ce qui ne l'empêche pas d'être un peu reptile. Elle rampe sur le fond de la mer. En marche, elle utilise ses 8 pattes. Elle se traîne à la façon de la chenille arpenteuse. Elle n'a pas d'os, elle n'a pas de sang, elle n'a pas de chair. Elle est flasque. Il n'y a rien dedans. C'est une peau. On peut retourner ses 8 tentacules du dedans au dehors comme des doigts de gants. Elle a un seul orifice au centre de son rayonnement. Cet hiatus unique, est-ce l'anus? Est-ce la bouche? C'est les deux. La même ouverture fait les deux fonctions. L'entrée est l'issue. Toute la bête est froide. Le carnasse de la Méditerranée est repoussant. C'est un contact odieux que cette gélatine animée qui enveloppe le nageur, où les mains s'enfoncent, où les ongles labourent, qu'on déchire sans la tuer et qu'on arrache sans l'ôter, espèce d'être coulant et tenace qui vous passe entre les doigts, mais aucune stupeur n'égale à la subite apparition de la pieuvre, méduse servie par 8 serpents. Pas de saisissement pareil à l'étreinte de ce céphalopode. C'est la machine pneumatique qui vous attaque. Vous avez affaire au vide ayant des pattes. Ni coup d'ongle, ni coup de dent. Une scarification indicible. Une morsure est redoutable, moins qu'une succion. La griffe n'est rien près de la ventouse. La griffe, c'est la bête qui entre dans votre chair. La ventouse, c'est vous-même qui entrez dans la bête. Vos muscles s'enflent, vos fibres se tordent, votre peau éclate sous une pesée immonde, votre sang jaillit et se mêle affreusement à la lymphe du mollusque. La bête se superpose à vous par mille bouches infâmes. L'hydre s'incorpore à l'homme, l'homme s'amalgame à l'hydre. Vous ne faites qu'un. Ce rêve est sur vous. Le tigre ne peut que vous dévorer. Le poulpe horreur vous aspire. Il vous tire à lui et en lui, et lié, englué, impuissant, vous vous sentez lentement vidé dans cet épouvantable sac qui est un monstre. Au-delà du terrible, être mangé vivant, il y a l'inexprimable, être bu vivant. Ces étranges animaux, la science les rejette d'abord, selon son habitude d'excessive prudence, même vis-à-vis des faits, puis elle se décide à les étudier. Elle les dissèque, elle les classe, elle les catalogue, elle leur met une étiquette, elle s'en procure des exemplaires. Elle les expose sous verre dans les musées. Ils entrent dans la nomenclature. Elle les qualifie mollusques, invertébrés, rayonnés. Elle constate leur voisinage. Un peu au-delà, les calmars. Un peu en deçà, les sépières. Elle trouve à ces hydres de l'eau salée un analogue dans l'eau douce, l'argyronecte. Elle les divise en grandes, moyennes et petites espèces. Elle admet plus aisément la petite espèce que la grande, ce qui est d'ailleurs dans toutes les régions la tendance de la science, laquelle est plus volontiers microscopique que télescopique. Elle regarde leur construction et les appelle céphalopodes. Elle compte leurs antennes et les appelle octopèdes. Cela fait, elle les laisse là. Où la science les lâche, la philosophie les reprend. La philosophie étudie à son tour ces êtres. Elle va même loin et plus loin que la science. Elle ne les dissèque pas, elle les médite. Où le scalpel a travaillé, elle plonge l'hypothèse. Elle cherche la cause finale, profond tourment du penseur. Ces créatures l'inquiètent presque sur le créateur. Elles sont les surprises hideuses, elles sont les troubles faits du contemplateur. Il les constate éperdus. Elles sont les formes voulues du mal. Que devenir devant ces blasphèmes de la création contre elle-même? À qui s'en prendre? Le possible est une matrice formidable. Le mystère se concrète en monstre. Des morceaux d'ombre sortent de ce bloc, l'immanence se déchire, se détache, roule, flotte, se condense, font des emprunts à la noirceur ambiante, subissent des polarisations inconnues, prennent vie, se composent on ne sait quelle forme avec l'obscurité et on ne sait quelle âme avec le miasme, et s'en vont, larves, à travers la vitalité. C'est quelque chose comme les ténèbres faites bêtes. À quoi bon? À quoi cela sert-il? Rechute de la question éternelle. Ces animaux sont fantômes, autant que monstres. Ils sont prouvés et improbables. Être est leur fait, ne pas être serait leur droit. Ils sont les amphibies de la mort. Leur invraisemblance complique leur existence. Victor Hugo, Les travailleurs de la mer.